Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale. Eh bien, cette émission est de retour en Corse. Nous sommes avec le président de la Ligue de Corse, Léo Battesti. Bonjour Léo.
Bonjour Stéphane, bonjour.
Alors Léo, tu es en altitude, hein, tu me dis.
Oui, je suis un petit village. C'est un village, c'est un mot. Je suis à peu près 1000 mètres d'altitude dans le sud de l'île.
Oui, alors la Corse, elle a cette caractéristique d'être une île qui possède tout, quoi, parce qu'il y a la forêt, les montagnes et les plages.
C'est une montagne dans la mer. La Corse, c'est une montagne dans la mer. Elle est beaucoup plus une région de montagnes, d'ailleurs, et de bergers aussi, que de pêcheurs, et malgré les 1000 km de côte. Et il y a, je crois qu'il y a plusieurs dizaines de sommets à plus de 2000 mètres. Hein, donc c'est vraiment, je conseille d'ailleurs aux gens qui visitent l'île de ne pas s'engluer sur les plages, mais de venir un peu dans l'intérieur, parce que c'est encore plus remarquable, je trouve.
Oui, une magnifique île que j'ai eu l'occasion de visiter quelques fois, et de venir aussi pour...
J'ai en face de moi les aiguilles de Babel, pour rien te cacher. Tu vois, juste en face de moi, il y a plus de... Je crois qu'il y a 800 000 personnes dans l'année qui viennent les visiter, donc elles sont juste en face de moi.
D'accord, superbe. Donc on imagine tout ça, et on pourra écouter cette émission en regardant quelques images de Corse. Donc évidemment une île à visiter, à connaître, l'île de beauté qui n'a pas volé son nom, voilà. Alors c'est aussi depuis maintenant presque 20 ans devenu, sous ton impulsion, un des pôles mondiaux du jeu d'échecs, avec ce fameux Open Corsica, mais pas que, bien sûr, il y a aussi toute cette politique de travail de fond pour la formation des jeunes. Et alors cette année, tu as annoncé, pour commencer par ça, le retour de la championne en titre de Yifan Yifan, la chinoise, qui a donc l'an dernier, à la surprise générale quand même un petit peu, remporté cette Open Corsica.
Oui, tout à fait. Yifan est très attachée sincèrement à l'île et aux amitiés qu'elle vient développer. Elle m'a souvent appelé dans l'année pour me dire qu'elle était partante pour briller de nouveau le titre du Corsican Circuit, et c'est bien volontiers que nous l'accueillons à nouveau. Anne, malheureusement, ne pourra pas venir cette année puisqu'il est engagé dans un autre événement, mais nous aurons un grand plateau avec beaucoup de grands maîtres internationaux, de grosses pointures qui viendront aussi. Donc ça va être vraiment encore un gros challenge pour la numéro 1 mondiale. Je dis numéro 1 parce que je crois que depuis peu elle est devant notre amie Judith Polgar. Et il y a également je dirais toute une activité autour de ce Corsican Circuit qui est remarquable. En plus, il y a des tournois spécifiques. Cette année, nous avons même élargi le trophée BNP Paribas des jeunes. On en fait deux, à Bastia-Ajaccio, où il y a 30 000 euros de prix en nature. Alors ça va des iPads, en passant par les ordinateurs portables. Il y a 300 prix différents pour les jeunes. Et on a vraiment descendu la base. Vous savez qu'on a en Corse un système de classement spécifique des low Corse qui commence à partir de 200 points LO. Par exemple, des gosses qui sont en CP, qui apprennent les échecs en CP, ils ont 200, 300, on monte catégorie d'âge, je dirais, de 200, 300, 400, 600, etc. Et il y aura des prix pour toutes ces catégories. Donc, on va avoir 300 prix différents sur l'ensemble des deux tournois. Donc, ça va être vraiment une grande fête, et elle est symbolique de ce que nous essayons de faire, à la fois le grand événement avec Elite. On a une centaine d'entreprises qui nous soutiennent.
Oui.
C'est l'une des manifestations en Corse qui est la plus autonome. Je dirais, nos fonds propres représentent 60% d'un budget global d'un peu plus de 120 000 euros, je crois. Donc, nous avons énormément de partenaires privés, et ça prouve l'impact sociétal de cette activité en Corse, et nous en sommes très fiers.
Oui, et c'est vrai que c'est extrêmement agréable, en plus, quand on vient jouer, de voir l'énergie dégagée par tous ces jeunes qui chaque année participent en masse effectivement à cet événement. Alors à noter d'ailleurs que l'an dernier, puisque j'y étais, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait la création du club d'échecs d'Ajaccio, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Ajaccio exactement? Il y avait des nouveaux locaux, voilà, c'est ça, des nouveaux locaux.
Le club d'Ajaccio a quand même quelques années.
Oui, oui.
C'est d'ailleurs le deuxième club au niveau fédéral, au niveau du nombre de licenciés. S'il y a sur le club d'Ajaccio, il y a de nouveaux locaux qui sont remarquables, qui sont situés dans pratiquement bord de mer à Ajaccio. Bon, pour ceux qui connaissent Ajaccio, c'est une région aussi assez remarquable. Et la baie de le golfe d'Ajaccio, ce n'est pas rien. Hein. Et donc, on a de vastes locaux donc qui sont très bien situés. Et il y a une dynamique considérable sur Ajaccio. Désormais, il y a un équilibre régional en Corse. On a énormément de régions qui sont au même niveau, non seulement au niveau du nombre de joueurs, de jeunes, mais même au niveau qualitatif.
Oui, alors, je peux revenir juste deux secondes sur l'Open Corsica. Je voulais signaler pour les auditeurs que notamment parmi les grands maîtres, il y en a beaucoup effectivement de top niveau mondial qui viennent, mais on a deux super grands maîtres français qui viennent, puisque Laurent Frayssinet et Romain Edouard
ont
confirmé leur participation.
Viennent tous les deux, ouais. Et Maxime, je crois qu'il a d'autres engagements également, mais en fait, je ne dis pas que nous ne voulons pas avoir de très forts joueurs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de créer un grand moment de convivialité où des joueurs moyens, hein, ou même un peu plus forts hein, que sûr. La moyenne, je dirais, peuvent se mesurer à des joueurs comme Wifan ou à ceux que tu viens de citer. Donc je crois que c'est vraiment important qu'il y ait ce mélange, ce côté un peu démocratique du Corsican Circuit qui est intéressant. Il n'y a pas de séparation entre les grands joueurs, avec dans des clubs fermés, etc.
Oui.
Non, ils sont tous au milieu. Les plus grands joueurs du monde ont tous participé au moins une fois à ce tournoi, et c'est vraiment quelque chose auquel nous tenons. On l'a créé en 1997, l'année prochaine nous fêterons ses 20 ans, et je crois qu'on fera quelque chose de considérable en cette occasion, et on en est très fiers, et c'est le fruit d'une association. Ce n'est pas du tout une structure extérieure aux associations qui va donner quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment, ça naît de notre réalité échiquéenne, de notre réalité de terrain, et je crois que c'est assez unique en la matière. Nous n'avons pas de mécènes, nous n'avons pas de Qataris derrière nous, nous n'avons pas de milliardaires. Nous avons le fruit de notre travail et l'impact que nous avons sur la société, et ce sont par petites masses, hein, de 500 euros à 10 000, hein, des gens, des structures qui nous soutiennent à travers une communication.
Oui, et un très bel événement à voir. Alors évidemment, la Corse, c'est pas que ça, et on va faire aussi un tour de Corse avec toi, si tu veux bien, puisque, alors, tu en as parlé déjà tout à l'heure, il y a maintenant une caractéristique aussi en Corse, c'est que donc, vous avez mis au point, votre propre classement Elo indépendant, en fait. Hein.
Oui, parce qu'il tient compte, moi je crois, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je crois que nous sommes en avance au niveau des échecs depuis pas mal de temps. Les échecs ont eu une démarche totalement élitiste, l'évolutionnisme, c'est-à-dire les plus forts restent ou les plus masochistes, et puis rien n'est fait, je dirais, pour le tout venant, c'est-à-dire des joueurs un peu, même d'un niveau plus bas que le mien, hein. Je veux dire, moi c'est un joueur moyen, puisque je suis allé autour des 1900, je stagne autour des 1700, mais l'immense majorité des joueurs, c'est un peu plutôt comme moi, même la moyenne est lourde, je crois, des joueurs, même dans un système élitiste, c'est autour de 1600. Hein.
Oui.
Donc, je veux dire que ce qu'il faut penser, en termes d'élargissement, et il y a une base considérable que l'on peut créer. Si l'on répercutait le nombre de gens qui ont été formés aux échecs en Lille, plus de 40 000 ont été formés depuis la création de la Ligue, c'est comme si, au niveau de l'ensemble fédéral, vous aviez des millions de gens
oui.
qui étaient venus dans le monde des échecs. Hein. Il y aurait actuellement près d'un million de licenciés à la Fédération française des échecs.
Oui, en termes de pourcentage de la population corse, c'est tout à fait important.
Oui, il faut multiplier par 300, je crois.
Oui.
Donc ce qui veut dire, et ce n'est pas propre uniquement, au niveau de la Fédération française, c'est un peu général, on se rend compte qu'ailleurs, c'est vraiment une élitiste des choses. Alors, il y a de grands événements, hein, avec maintenant, des fois, il y a en particulier quelques partenaires américains ou autres qui mettent, particulier à Saint-Louis, hein, il y a milliardaires, mécènes, c'est très bien, hein, et puis ça, c'est vraiment les gens qui aiment les échecs, ça fait, je crois, de plus Fischer, hein, que ce milliardaire est intéressé par les échecs. Mais en dehors de ça, ailleurs, c'est de l'argent douteux. Quand on va dans certaines régions, en particulier l'URSS, je me demande d'ailleurs ce que quand ça tiendra vu la crise russe de l'URSS, de l'ex-URSS.
Oui, oui, oui.
De la crise russe.
On avait compris.
Il y a quelques argents, un peu d'argent du Moyen-Orient, mais autrement, c'est la pauvreté totale. Les joueurs aujourd'hui, les professionnels, vivotent de plus en plus. Il faut qu'ils diversifient leurs activités. Or, si l'on développe vraiment une politique populaire au niveau des échecs, si vraiment on pense à s'ouvrir vers le monde, Là, on crée des conditions économiques nouvelles qui profitent également au monde professionnel. Moi, c'est terrible à dire, je crois que c'est Laurent Frayssinet ou Bacrouche qui l'avait écrit. La seule fois qu'on voit les meilleurs joueurs français, c'est en Corse aujourd'hui. À part le championnat de France, et encore même au championnat de France, je vois que malheureusement, de temps en temps, il manque les principaux. Donc je veux dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas les capacités, au lieu de penser toujours en termes de manifestations consanguines, les sempiternelles, le tournoi interne, les tournois de ceci, de cela, où les mêmes, les plus motivés se retrouvent sous des formes différentes, c'est bien, et ça existe aussi en Corse. Il faut absolument développer une pratique populaire, il faut intéresser les enfants, les jeunes à des tournois, le blitz est l'arme suprême en la matière,
oui.
Alors qu'il est pratiquement... Il est marginalisé dans le dispositif fédéral. Donc il faut absolument aller sur le terrain et appeler à avoir le plus de gens possible. Et il faut revoir les structures de clubs traditionnels. Elles ne sont plus du tout adaptées. Il faut créer des maisons des échecs, surtout dans des ensembles où il y a du monde, où il y a des populations autour. Il y a des tas de choses à faire. Et c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Voilà, je tenais à le dire. Donc je regrette que le contrat semble de plus en plus saisissant entre un développement basé sur cette stratégie et une stagnation qui confine toujours à l'élitisme. Je le regrette.
Oui, alors moi c'est vrai que ça fait partie d'une réflexion de fond et d'action de fond et que tu as montré en Corse, effectivement. Comment on pouvait avoir une stratégie plus générale et puis ouvrir le jeu bien entendu vers les amateurs qui sont encore en découverte et qui ont besoin bien entendu d'événements qui les concernent et pas forcément toujours s'axer sur des événements uniquement élitistes ou effectivement centrés et qui ne font pas d'efforts pour s'ouvrir vers un plus grand nombre. Je suis entièrement en phase avec évidemment cette approche. Et c'est pourquoi Fréquence Diagonale essaie de faire comme ça bien un petit podcast pour que ce débat ait lieu aussi entre les différentes régions de France, entre les différents responsables, et qu'on ne parle pas que de jeux d'échecs sur le plateau, mais aussi de jeux d'échecs en termes d'organisation et de développement. Alors, parlons de développement donc, de la Corse. On a bien sûr l'Open Corsica. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler aussi... Alors, on va rappeler les dates aussi, c'est très important. C'est 15 ou 19, c'est ça hein.
Non,
17, 17 ou 19
17, le 17, 18, 19 à Bastia, et la finale a lieu à Ajaccio le 21.
Voilà, 17.
Du 17 au 19 à Bastia. Hein,
voilà.
Avec le Pen Oscaro, qui est doté, je crois, de 50 000 euros de prix.
Oui.
Voilà, plus un tournoi de Blitz Coca-Cola, je crois, avec 5 000 euros de prix, hein, qui est au milieu, hein, qui est une espèce de consolante. Et puis, je disais tout à l'heure, le trophée BNP Paribas des jeunes, les deux trophées, hein, Bastia et Ajaccio, qui ont 30 000 euros de prix en nature.
D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire aux auditeurs hein, qui souhaitent aller à cette Open, il faut absolument rester en Corse pour aller voir la finale à Ajaccio. C'est très facile de faire Bastia à Ajaccio, il y a une ligne de train directe entre les deux. Et vraiment, ça vaut le coup de rester pour aller voir cette finale, même s'il n'y a pas d'autres tournois à jouer à Ajaccio, mais il faut prendre le plaisir de voir cette finale dans une ambiance de folie, hein, parce que c'est toujours plein, et c'est vraiment un spectacle vraiment extra, très très bien mis en scène, voilà, un des meilleurs qui soit. Alors, ça c'est pour l'Open Corsica. Alors, est-ce que tu pourrais aussi nous dire, donc, pour cette saison, quelles vont être les grandes dates, les gros autres grands événements, que ce soit pour les jeunes ou les tournois internationaux qui sont prévus et qui sont maintenant un peu réguliers en Corse. Alors pour cette saison, ça va se passer quand?
D'abord d'emblée, je veux dire, pour rester conforme à ce que je disais tout à l'heure, notre stratégie,
oui,
c'est la globalité. Je voudrais dire juste un chiffre. Nous organisons plus de 400 tournois dans l'année dans l'île. 400. Alors ça va du petit tournoi scolaire avec une vingtaine, trentaine de jeunes, à la manifestation sur la place Saint-Nicolas où il y a 3500 jeunes, mais nous en organisons 5000. C'est considérable, je tiens à rendre hommage à nos 16 formateurs salariés, à nos 5 vacataires et aux centaines de bénévoles que nous avons dans toute l'île qui permettent cette organisation. Parce que ça, c'est la grande force aujourd'hui de la Ligue Corse, c'est que la Ligue s'est développée historiquement dans la région bastiaise et que petit à petit, il y a eu une pénétration territoriale considérable. Et aujourd'hui, il y a des régions, par exemple, comme la région de Porto-Vecchio, qui est dans l'extrême sud de l'île, Bonifacio, mais les échecs, c'est quelque chose d'incroyable désormais dans cette région. C'est des centaines de participants à des manifestations. C'est d'ailleurs un tournoi maintenant qui monte en puissance. L'an dernier, d'ailleurs, a été le premier Open Open International, donc de Lecce et de Porto Vecchio. Donc il y a énormément de choses, plus des manifestations que nous avons dans la région. Donc il y a énormément d'activités. Alors il y a ces tournois de masse, il y a justement ce classement élu Corse, oui, qui permet, parce que vous, moi je me rappelle que j'avais fait une fois un article sur Chess Base, qui a été publié sur Chess Base, sur l'analyse de la FIDE au niveau général et de la du nombre de joueurs par pays qui étaient FIDE, où on voyait qu'il y avait des pays où il y avait un taux d'inactivité des joueurs FIDE qui était autour de 60%, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais d'activité, c'était des gens qui stagnaient là-dessus, mais qui petit à petit, souvent c'est parce que certaines organisations ne souhaitent pas donner de l'argent à la FIDE, mais et donc certains tournois ne comptent pas, mais souvent ça traduit aussi un manque d'activité organisée pour la masse des joueurs. Chez nous, la masse des joueurs joue au moins un tournoi dans l'année. Donc il y a un taux d'activité de 100%. Tous les jeunes, vous pouvez aller sur le site de la Ligue, il y a un site spécifique pour le classement et le Corse. Par exemple, l'an dernier, nous avons eu 7389 joueurs, donc toutes lignes, qui ont tous fait des parties et qui ont tous un classement individuel. Et ça, c'est considérable. En plus, il est immédiat, c'est-à-dire vous faites un tournoi, le lendemain, il y a le résultat, et il y a le calcul des points qui est fait sur le site. Je vous invite à y aller pour voir un peu la réalité de ce que ça représente. Donc il y a tous ces tournois, et puis bien sûr ensuite il y a des événements internes à la Ligue qui sont importants. Par exemple, nous avons une compétition interne de club, hein, parce que nous ne sommes pas contre les compétitions de club, qui réunit deux fois par an à Corte 160 joueurs qui représentent l'ensemble des clubs insulaires. Et puis nous avons énormément de tournois internes qui comptent pour le classement international. Par exemple, le club de Bastia en organise deux dans l'année, celui d'Ajaccio en organise un, donc il y a énormément de tournois classement FIDE. Ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas, puisque c'est un peu intramuros, je dirais, au niveau de la Corse, mais ensuite, il y a tous les événements internationaux. Alors, internationaux, oui. Je suis obligé de dire que c'est le plus important aujourd'hui au niveau fédéral, hein. Il y a très peu d'événements, à part sur le Cap d'Agde, Capelle-la-Grande, peuvent prétendre rivaliser avec cette réalité.
Le championnat de Paris aussi. Il faut citer le championnat de Paris, qui est quand même important, oui, aussi, avec un très haut niveau international et beaucoup de participants. Même si, bien sûr, pour Paris, on pourrait s'attendre à faire plus.
Non, mais ça, c'est un peu normal. Hein. Mais au niveau, je dirais, des tournois, nous avons d'abord, comme Open International, nous avons l'Open International de Balade, à Calvi, qui aura lieu en avril, hein, cette année, qui a une bonne dimension, hein, avec énormément de grands maîtres. Nous avons ensuite le match de Porto Vecchio. Ça fait maintenant, je crois, 12 ans que nous faisons ce match, toujours entre deux grands joueurs. Ça allait de Spade, on a fait les Karpov Spassky, les Radjabov Karsen, les Wifan, les Wifan Zomni, les Judith Polgard, vraiment toute l'élite mondiale est venue à Porto Vecchio pour faire ce match dans une ambiance incroyable, hein. Tu parlais de celle d'Ajaccio, mais je crois que là c'est encore pire
pour nous,
encore mieux, puisque nous avons 400 à 500 jeunes de toute la région de Porto Vecchio qui viennent et qui avaient les commentaires ouverts. C'est notre spécialité quand on fait des matchs comme ça. Tout le monde entend le commentaire basique de nos formateurs. Tous ces jeunes, c'est très pédagogique pour tous ces jeunes, avec bien sûr l'accord des joueurs, hein, et ça ne pose aucun problème d'ailleurs. Hein, il vaut mieux ouvrir vers l'extérieur et commenter que de les enfermer dans des cages, comme ça a été tenté dans certains pays. Donc on est dans une logique vraiment de spectacle, hein. On est également, bien sûr, le tournoi international, le tournoi européen, qui se fait sur la place Saint-Nicolas pendant le grand tournoi scolaire dont je parlais tout à l'heure. Il y a 3500 jeunes sur la place Saint-Nicolas, et là nous avons toujours 6 équipes qui viennent d'Europe, qui jouent de jeunes avec des U10, U12, U14, U16, U18, hein, constitués donc de 5 joueurs. C'est un grand événement. Puis nous avons le Corsican Circuit, et puis je crois que j'ai oublié bien sûr l'Open de Portici l'été. L'Open de Portici, c'est maintenant devenu franchement un des plus grands Open au niveau européen. Je parle d'Open. Hein. L'an dernier, il a été remporté par un Ukrainien, un jeune Ukrainien dont je ne me rappelle plus le nom, tellement il est un peu compliqué comme tous ces noms ukrainiens. Je vous invite à venir. Qui est jeune d'ailleurs, 26 ans. Je ne me rappelle plus. Allez, je commence un peu à me faire vieux là. J'ai un peu la mémoire. D'ailleurs, pour citer, je crois que Laurent Fressinet n'a terminé que troisième de ce tournoi. Il y avait vraiment, il y avait les numéros 1 tchèques, etc. Il y avait, je crois qu'il y avait 12 grands maîtres internationaux. Donc ça s'annonce très bien. Et puis nous faisons ces Open d'Oblige de l'été qui sont un régal, dotés tous d'environ 10 000 euros de prix, aussi bien à Chamanach qu'à Quantz. À Chamanach, c'est devenu un rendez-vous international désormais depuis la 6e édition. Karpov n'avait pas réussi à le gagner, c'est dire. Il y a vraiment, cette année, nous avons eu, je crois, aussi une dizaine de grands maîtres qui ont participé. Donc, on a tout un panel de manifestations internationales qui sont quand même importantes. On pourrait en faire plus, je ne le cache pas, il y a des sollicitations ailleurs, mais je veux ménager un peu nos troupes, hein, et moi-même aussi, par la même occasion. Et on est toujours dans cette même logique. C'est ça qui est très intéressant, regardez. C'est que quand on est à Ajaccio, quand on est à Porto Vecchio, quand on est à Bastia, quand on est à Calvi, ce sont des acteurs différents qui nous soutiennent, des sponsors locaux qui nous aident et qui nous permettent d'abonder à pratiquement la quasi-intégralité. La quasi-intégralité des prêts du tournoi sont pris en charge par ce sponsoring. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Il y a même, je ne le cache pas, pas mal d'événements qui sont bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que ils ont un tel impact, il y a tellement de soutien que finalement on en tire même pour les clubs locaux certains bénéfices hein, qui ne sont pas négligeables.
Ce qui permet de permet de développer ces événements d'une année sur l'autre aussi, bien sûr.
Ah oui, tout à fait. Il y a des fonds propres, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, la Ligue Corse, elle n'a eu aucun exercice déficitaire, ou le seul peut-être, c'était moins de 3000 euros. Hein. Donc elle a des fonds propres, malgré le fait qu'elle ait une masse salariale que je crois qui est deux fois supérieure à celle de la fédération, hein, pour donner un ordre d'idée, hein, puisque nous avons 15 salariés CDI hein, qui gagnent, qui ont des salaires moyens, qui sont cohérents hein, et qui sont de, qui sont puisqu'il faut être transparent, hein, qui vont entre 1450 euros net à 1800. Hein. Donc on est vraiment dans une logique, là aussi, parce que c'est important. Parce qu'au niveau social, il faut être exemplaire. Nous avons une politique sociale. Alors d'abord, puisque nous avons plus de 10 salariés, il y a déléguée, qui est d'ailleurs une déléguée, au niveau des salariés. Nous avons des dialogues sociaux. Il y a eu même des dialogues sociaux, des fois, assez vifs, hein, parce que, clairement, moi, en tant que président, je suis un peu le chef d'entreprise là-dedans. Hein, et je n'ai pas toujours le même point de vue que le représentant des salariés. Mais ça fait rien, on discute et on trouve des solutions. Et on a même fait... on a même signé avec l'ensemble des salariés, parce que cela se passe bien sûr bien dans la transparence et dans la synergie, on a même signé une convention avec une charte particulière au niveau des salariés de l'AIC qui tienne compte de la spécificité de ce travail. C'est à la fois entre le travail d'animateur, ça a un côté de professeur, ça a un côté d'organisateur, donc tout cela, c'est fait, tout est formalisé, il n'y a pas une heure qui nous... supplémentaires qui ne soient pas payés et on est dans une logique de transparence totale au niveau social et c'est important et je me permets de le dire et je ne vais pas être hypocrite, cela contraste singulièrement avec la façon méprisante dont sont traités les salariés de la fédération et heureusement qu'il y a eu cette mobilisation. Il est important quand on est une association d'être exemplaire dans tous les domaines. Quand on n'est pas exemplaire dans un domaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose à anguille sur roche. Et ça veut dire que l'on fuit la modernité et que l'on a des tactiques qui souvent sont très vaseuses, pour ne pas dire puces, pour ne pas tomber dans la diatribe. Hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc moi, j'invite tous les responsables échiquéens à avoir une politique sociale qui soit une politique respectueuse du droit des salariés. C'est ce que nous avons essayé, que nous réussissons, je crois, au niveau de la Ligue Corse. Voilà. Alors, disons qu'on a un ensemble d'activités avec ce formidable organisation que constitue aujourd'hui la Ligue Corse.
Alors voilà, avec cette petite parenthèse politique hein, que tu viens de nous faire, moi je ne rentrerai pas dans ces considérations, bien entendu. Mais revenons sur l'accord, sur deux derniers points qui vont aussi nous intéresser, Léo, si tu veux bien. Peut-être le premier point avant de finir, je voudrais qu'on voit à la fin comment venir en Corse pour cette Open Corsica, quels sont les moyens. Mais avant ça, je voudrais que tu nous parles aussi des résultats, je dirais, sportifs de la Corse au niveau général. Il y a déjà un maître international insulaire, peut-être un deuxième en gestation, ça tu vas nous le dire. Et puis il y a aussi les résultats au championnat de France des jeunes, dont on sait bien que tu suis ça de très près, avec des résultats plus qu'encourageants. Alors est-ce que tu peux nous parler de ces résultats, de rappeler ce maître international corse, ce premier maître international corse, qui est quand même un résultat sportif remarquable, et peut-être, pourquoi pas, dans l'avenir, est-ce que un premier grand maître corse, est-ce que tu vois venir un premier grand maître corse, et puis aussi les résultats chez les jeunes. Et avant d'entendre les réponses de Léo Battesti, on va faire une petite pause musicale dans Fréquence Diagonale avec Triade, Breathe, à tout de suite. Thank you.
Alors, il est certain que nous avons privilégié le développement de masse, mais pour autant, nous n'avons pas négligé l'élite. Il y a forcément des jeunes plus doués que d'autres. Et notre but a toujours été, et de plus en plus, depuis ces deux dernières années, de mieux les encadrer, de leur donner tous les moyens pour s'épanouir et pour devenir de plus en plus forts. Et les résultats sont là. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé, il y a deux ans, à Scuola Corsa del Talento, l'école corse de l'excellence. C'est un pôle espoir, grosso modo. Avec un pôle espoir d'excellence, où il y a les 10 jeunes, hein, ça ne va pas au-delà de 14 ans, je crois, qui sont les plus doués, qui ont les placements les plus élevés, etc., qui sont encadrés spécifiquement par deux maîtres internationaux, par deux maîtres FID, donc qui sont là dans cette école d'excellence, avec vraiment des entraînements spécifiques et avec également des programmes je reste sur le terrain spécifique où tout est pris en charge. Hein. Nous consacrons un budget de 80 000 euros, grâce d'ailleurs à des aides également en ce domaine, y compris des mécénats, 80 000 euros pour cet encadrement, tant au niveau de l'encadrement, je veux dire, le niveau d'encadrement dont je vous ai parlé, hein, donc le coût de salarial de l'opération, mais également au niveau des déplacements, tout est pris en charge. C'est-à-dire que nous amenons nos jeunes dans des tournois internationaux, dès qu'ils sont dans le dispositif de la Ligue, il n'y a pas un seul centime qui soit demandé aux parents. Ils partent, tout est pris en charge, et ils reviennent, quel que soit le pays où ils vont, et quelles que soient les conditions. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Donc là, nous avons aujourd'hui, également, avec ce pôle, un pôle d'espoir qui est un peu plus large, pôle complémentaire, où il y a une quarantaine de jeunes qui sont bons, voire certains de plus en plus forts, qui petit à petit, il y a une passerelle entre les deux, et bien en fonction du sérieux, de la motivation, du talent des uns et des autres, il y a un mouvement permanent entre ces deux pôles. Ça, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très fiers, ça se passe très 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 bien, c'est très bien organisé, les résultats sont là. Tu as fait allusion à quelques résultats, mais ça fait longtemps maintenant, que ça fait quelques années que nous avons des titres de champion de France. Auparavant, lorsque nous avions un jeune qui était dans les 30 ou 40 premiers, on était content.
Oui.
Aujourd'hui, on sait sur tous les podiums. Alors, et si on regarde les catégories des plus jeunes, c'est-à-dire des 8, U8, U10, U12, la Ligue Corse, il n'y a qu'à prendre les résultats de cette année, et doit être la Ligue, je dis bien, je suis même certain que c'est la Ligue, même devant certaines ligues qui ont 11 millions d'habitants, hein, on n'a que 300 années, qui a le meilleur résultat. Nous avons eu cette année encore un titre de champion de France, nous en avons eu deux l'année dernière, nous avons eu pas mal nous avons des podiums, beaucoup de places dans les 10 premiers, donc ce n'est pas parce que les jeunes Corses sont devenus les plus intelligents, plus habiles, plus compétiteurs, ça veut dire que nous sommes organisés en conséquence.
Oui, voilà.
Et il est sûr, et ça je tiens à tirer attention, dire qu'on va avoir des GMI, un PAGA, etc., c'est autre chose parce que là, il y a aussi quelque chose de plus naturel. Vous avez une masse de 60 millions d'habitants, vous avez une masse de 1 milliard d'habitants ou 1 milliard et demi, c'est pas la même chose hein, que une masse de 300 000 habitants.
Bien sûr.
300 000 habitants, le talent, le pourcentage pour qui on est, il est un peu plus faible. Donc, mais nous exploitons au maximum de possibilités et parmi eux, il y a le jeune très doué. Actuellement, il y a, pour ne parler que de l'un d'entre eux qui va partir au championnat du monde et au championnat d'Europe, Albert Thomas, il est très talentueux, c'est un jeune qui continue, puisqu'il a que 12 ans, hein, 13 ans,
oui.
Donc il est beaucoup plus âgé, d'ailleurs physiquement il fait plus, mais tellement longtemps qu'il nous apporte tant de satisfaction, bien, c'est un jeune qui peut aller très loin, comme est allé Michael Masson, c'était le pur produit de l'équipe corse, il est maître international.
Voilà.
Il a été détecté sur les bancs d'une école dans un quartier populaire de Bastia, Saint-Joseph. Il est venu au club et petit à petit, il est monté en puissance. Puis nous avons beaucoup de jeunes qui ont ce potentiel. Bon, récemment, j'étais en Croatie à l'invitation de Kasparov pour le premier festival Adriatique 2015. Bon, on a amené deux jeunes avec nous, hein, dans le cadre de l'école d'excellence. On a amené même pas les premiers hein, au niveau des 12 hein, en Corse, hein, puisque d'ailleurs il a commencé par Albert Thomas. Donc il y a Nabil Bouzini et Lucas Bunust qui sont des Bastiens, des jeunes Bastiens qui sont talentueux. Hein. Venez, bon, hein, ils sont arrivés, il y avait tous les meilleurs joueurs croates et autres. Ils ont terminé premier et troisième, hein, incontestablement. Aller en Croatie, des Corses qui vont en Croatie aujourd'hui et qui dominent comme ça au niveau des jeunes à Split, qui est quand même le lieu le plus échiquien de Croatie, c'est quand même un certain symbole. Je veux dire que on ne pourrait pas imaginer ça il y a 15 ans, lorsque le premier voyage que nous avions fait en Croatie, à Zadar, où nous traînions nos jeunes de l'époque, qui sont très sympathiques ou autres, mais qui étaient plutôt au 15e place dans le tournoi où nous étions.
Oui.
Donc voilà, la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on a vraiment des jeunes très talentueux, ou des filles également. Nous avons deux championnes de France, hein, et deux vice-championnes cette année, qui sont de bon niveau. Donc on les traitera. Et d'autres petits qui sont en train de monter. On a des jeunes aujourd'hui, je sais, j'ai fait une réunion l'autre jour avec l'ensemble des formateurs. On a des jeunes de 6-7 ans qui sont très très doués. Ça va donner. Ça va donner. On essaye d'être sérieux, on a une charte avec les parents également, hein. C'est très important d'être très structuré, de ne pas subir d'influence, mais pas néfaste, parce que les parents, ils vont avoir un côté cocon, un côté d'affois qui va être un peu anti-sportif sans s'en rendre compte. Nous, on est très rigoureux dessus. Si les gens, les parents ne veulent pas accepter cette charte, c'est-à-dire nous avons la direction sportive intégrale de leurs enfants, s'ils ne veulent pas accepter, nous trouvons des moyens d'être en bon symbiose avec eux d'une autre façon. Mais dès le moment où ils sont dans l'école de l'excellence, ce sont des choix sportifs sous la responsabilité d'Akavan Villersan, qui est le directeur de la formation et qui fait un travail colossal et remarquable avec des gens comme François Brett, avec Mick Almasson, qui fait partie de l'encadrement, et également Pierre-Louis Giubiscopo, qui est maître international italien et désormais italo-corse, qui est également un gros remarquable, plus le vice-président de la Ligue, qui se Marie-Marie, qui encadre ce dispositif. Personnellement, d'ailleurs, je n'interviens pas dans ce dispositif, il est purement sportif. Je n'interviens que si je sens qu'il y a quelques problèmes, ce qui est rarement le cas d'ailleurs.
Alors, pour les auditeurs, je vais donner un chiffre pour aller dans le sens de ce que tu disais, comme quoi, effectivement, selon la densité de population, on ne parle pas de la même chose. Il y a environ 700 grands maîtres internationaux dans le monde pour 7 milliards d'habitants, ce qui fait un grand maître pour 10 millions d'habitants. Voilà, donc c'est là qu'on voit, on voit à quel point voilà, le nombre de grands maîtres dans le monde est très rare, en fait. Voilà, il y en a pas beaucoup.
Ouais.
Et c'est un titre qui est effectivement extrêmement difficile à atteindre. Et voilà, donc connaître ce ratio, ça donne quand même une petite idée de ce que veut dire beaucoup de grands maîtres dans un pays ou pas. Évidemment, ça dépend bien sûr de la base de la population aussi. Et de la pratique, bien sûr, du jeu d'échecs aussi, les deux.
Il y a beaucoup de grands maîtres qui ont dû mourir sans savoir que c'était des grands maîtres, hein,
oui.
Dans le monde. Dans la mesure où les échecs ne sont jamais venus à eux. Mais je crois que lorsque l'on dispense des yeux, puisque nous, notre force, c'est qu'on est dans les écoles, dans le temps scolaire, puisqu'on n'en a pas encore parlé de cet aspect, mais c'est très important, c'est fondamental.
Ben, ah, parle-en, vas-y, parle-en.
Très puissant avec l'éducation nationale,
oui.
Nous sommes dans le temps scolaire, maintenant depuis 15 ans, hein. Et c'est ça qui est vraiment l'atout essentiel, c'est que pour détecter aussi les talents et pour motiver les jeunes. Parce que la discussion que j'ai souvent eue d'ailleurs, même et en particulier au niveau fédéral, c'est il y a une mauvaise compréhension de l'intérêt du scolaire. Le scolaire, ce n'est pas une fin en soi. C'est bien que des enfants apprennent à jouer aux échecs dans les écoles, ça ne peut pas leur faire de mal. Mais si c'est détaché d'un projet échequin, je ne dis pas que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais c'est pas loin. D'ailleurs, il n'est que de voir. À Paris, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui ont eu des échecs à travers des écoles bleues, je crois qu'on appelle, hein.
Oui.
Des structures.
Atelier bleu, voilà. Oui. Atelier bleu.
Des structures, ce qui, selon moi, mériterait qu'on se penche sur elles. On est au niveau de ces écoles bleues. Combien vous avez de jeunes qui sont sortis? Combien y a-t-il de jeunes qui participent aujourd'hui à des Open internationaux, par exemple, pour prendre celui de Paris? C'est ridicule, c'est dérisoire. Parce qu'il n'y a pas eu tout de travail autour. D'abord, on a laissé ça au privé, au lieu de le laisser dans le giron de la Ligue Île-de-France, et ça a été une catastrophe, parce que le privé, c'est le privé. Hein. On rentre dans une autre logique, et on n'a pas laissé tous les effets induits que conduisent la synergie qu'il y a entre des clubs, qui vont être des réceptacles, qui vont être accueillir les enfants. Moi, j'ai calculé que le pourcentage des jeunes qui ont l'enseignement dans le temps scolaire et qui viennent dans les clubs, ils fluctuent selon les lieux, parce que ça peut être plus facile dans certaines dispositions géographiques que dans d'autres, hein, entre 8 et 16%. Vous vous rendez compte? Si tu te rends compte, c'est 8 et 16%,
oui.
C'est-à-dire que nous, chaque fois, chaque année, nous attirons des centaines d'enfants dans des clubs. Ils vont beaucoup plus loin au niveau des échecs. Et ce seront toujours des joueurs d'échecs. Et on se rend compte que ce qu'on fait, les manifestations publiques, à l'université, dans la rue, etc., l'engouement qu'il y a, dès qu'on met des jeux d'échecs, il y a des dizaines de personnes qui arrivent et qui commencent à jouer. Donc on est dans une autre perspective. Je vois aussi quand on fait des tournois dans des villages, on va dans des zones rurales, il y a très peu d'habitants, mais il y a presque autant de joueurs d'échecs que d'habitants. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est un peu comme on joue au boule dans certains endroits, etc., même en Corse d'ailleurs. C'est très populaire. Donc voilà, je veux dire que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut la synergie. Donc il faut s'organiser en conséquence. Vous avez des clubs, ils ont surtout ne veulent pas être dérangés. Je comprends. La passion, c'est difficile de la partager. Pas tout le monde a le souci de partager les choses avec tout le monde. Hein. Les joueurs de chien qui se mettent devant un truc, ils veulent jouer, ils veulent prendre le plaisir. Mais quand on est responsable, c'est ce à quoi on doit s'atteler, autrement on reste joueur.
Oui, voilà. Oui, effectivement, voilà deux dimensions ouais. du jeu, effectivement, qui demandent une approche différente. C'est pas pareil, effectivement, de vouloir améliorer son niveau dans le jeu que de vouloir encadrer, bien entendu, un club ou un tournoi.
Bien sûr. Mais moi, je respecte ceux qui veulent améliorer. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça.
Bien sûr.
Mais au moins une catégorie de personnes, ceux qui organisent, au lieu de penser toujours en termes de boutique interne, de tournoi entre de consanguinité, toujours les mêmes qui vont jouer ensemble, par quelques exceptions près, et de s'élargir, d'essayer de dire, voilà, ces jeunes qui sont dans l'école proposent en l'air de venir, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tournoi, on fait énormément de tournois de glisse dans tous les clubs, et puis on communique. Les formateurs, quand ils vont dans les écoles, ils donnent des documents. Il y a un mensuel gratuit qui est donné avec toutes les dates des tournois, on a un site internet qui bombarde là-dessus, on donne des flyers systématiquement à tous les enfants pour qu'ils viennent au tournoi, et petit à petit, la famille échiquéenne s'agrandit, parce qu'il y aura toujours des perditions, il y aura toujours des nouveaux qui viendront, des parents nouveaux qui viendront, et les parents s'investissent, sont partis dans le bénévolat, et ainsi de suite. Maintenant, ça fait 15 ans, 16 ans que ça dure, ce n'est plus du hasard, voilà.
Non, c'est clair, oui, c'est pas du hasard.
Voilà. Et puis qu'on dise, oui, mais c'est parce que toi, encore, tu étais connu, d'accord, pour lancer la chose, sans doute, j'étais très utile, je ne vais pas non plus faire le faux modeste, dire que je suis pour rien, non, j'y suis pour pas mal. Mais aujourd'hui, quand on voit le développement qu'il y a dans des régions comme Ajaccio, où je ne suis pas, dans des régions comme Portonnet, où je ne suis pas, dans des régions comme la Balagne, où je ne suis pas, quand on voit ça au niveau de la société civile des échecs, dire que ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à ce qui a été construit et à la philosophie qui a entouré cela. Et on est au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Je ne veux pas être cruel. Comme tout à l'heure, je vois que le terrain politique, tu en as un peu peur, je ne sais pas pourquoi.
Non, j'en ai pas peur. Non, c'est pas. Non, mais Léo, c'est pas une question de peur, mais si on veut faire un peu de médias, il faut essayer de garder la plus grande neutralité possible.
Mais moi, voilà. J'aime bien les médias un peu critiques, parce qu'il faut aujourd'hui. Qu'il y ait aussi cette critique. Parce que ce n'est pas moi, je ne dirais pas, allez, c'est pas de l'anti-salazarisme. Moi, j'ai plus de l'empathie maintenant pour Salazar qu'autre chose. Il me fait de la peine. Voilà. Allez, je suis franc. Il me fait de la peine. Voilà. Je ne pense pas que ce soit un mauvais bougre. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'est pas compétent, qui n'a pas de stratégie. On en voit aujourd'hui les conséquences sur le terrain. Moi, pendant toute cette campagne, je fais, sans doute, ça va paraître comme celui qui règle encore des comptes parce qu'il avait perdu un truc. Mais je le dis sincèrement, si je ne le dis pas, je ne serai pas franc. J'ai toujours été franc. Je le dis, on paye les pots cassés d'une absence de stratégie.
Est-ce que ça veut dire, Léo, est-ce que tu es en train de nous dire que tu vas te représenter comme candidat aux prochaines élections de la FFE?
Je tiens à dire tout de suite que je me suis présenté, et je dis, je botte pas en touche, parce que je ne pouvais pas faire autrement que me présenter à l'époque. J'ai cédé à quelques sollicitations affectives parce qu'il fallait absolument. Et puis, honnêtement, j'avais pensé que je pouvais limiter la casse au niveau de la fédération et pouvoir leur donner des perspectives. C'est sûr, je le dis en toute. Peut-être je suis prétentieux, mais je pense que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Hein. On ne serait pas dans la situation. Et on n'aurait certainement pas rompu. Le BNP Paribas n'aurait certainement pas rompu le partenariat avec vous. Ça, je peux te l'assurer. Donc, il y a aujourd'hui une situation qui est le fruit d'une absence de vision générale et de conception du rôle de président. Qu'est-ce que c'est un président d'une fédération? On l'avait écrit à l'époque. Un président de la fédération, c'est pas celui qui va mettre la main de partout. C'est celui qui doit être le véritable ambassadeur et VRP de la fédération. Il doit aller taper aux portes. Il doit aller solliciter les politiques. Il doit aller solliciter les sponsors. Quand je vois que la fédération délègue à une entreprise privée, un truc, une agence, une agence de com. La, mais vous vous rendez compte, moi je suis chef d'entreprise, je vais mettre 50 000 ou 100 000 euros quelque part, je vais avoir de moi un commercial d'une boîte privée de seconde zone. Mais vous rigolez, ça, ce luxe, ce sont ceux qui sont vraiment enracinés sur le terrain qui peuvent le faire. Peut-être la Fédération française de foot, mais le reste, c'est un travail de pionnier. C'est le président qui doit être le premier à convaincre les partenaires. Or, il ne l'a jamais fait. Il a ramené quelques bouteilles de champagne encore. Je crois qu'il n'a même pas le droit de le faire. Parce que c'est de l'alcool. Je veux dire que c'est ridicule ce qui se passe aujourd'hui. C'est dérisoire, c'est pathétique. Donc, j'espère, moi je ne serai pas candidat, je le dis tout de suite, parce que j'ai suffisamment souffert dans la première candidature, je ne suis pas masochiste. Parce que dès le moment où, comme c'est moi, que je suis corse, que j'ai mon passé politique, ce sont ces créneaux-là sur lesquels on s'en prenait, des gens comme comme d'ailleurs, on a vu le travail de SAP qu'a fait quelqu'un comme d'ailleurs Europe Échec, avec Bachar Kouakli, qui est allé accueillir jusqu'au matin du vote des gens à la gare pour les convaincre de ne pas voter pour moi, en disant que Jean-Claude Moi était un voleur. Hein. Voilà la réalité du truc. Donc moi, ça, je ne veux plus le vivre. Je ne veux plus le vivre, mais je soutiendrai évidemment tous les rapprochements qui ont eu aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'ont pas du tout voté pour notre candidature il y a trois ans. Il y a des gens qui ont carrément voté Salazar à cette époque, et d'autres personnes qui avaient bien sûr voté pour ces démarches. Il faut qu'ils se retrouvent, qu'ils partagent l'essentiel. Qu'est-ce que c'est des frères associatifs. Mais alors, qu'ils se retrouvent pour construire quelque chose.
Mais Léo, alors je pourrais te dire, pour te titiller quand même, et bon, tout en restant neutre, hein, je poserai pas d'avis dessus en tant que, bien sûr, média, j'essaie de rester dans la neutralité, mais je pourrais te titiller en te disant que si tu abandonnes le combat politique parce que tu as perdu une élection, c'est pas la hauteur de l'engagement,
non,
d'un engagement politique
qui... Je ne l'abandonne pas, moi je viens de dire que j'aiderai. Je veux dire que je serai dans le coup en aidant, tout ce que je peux faire, tout ce que décideront que je peux faire ceux qui auront l'initiative de cette liste, puisqu'il y aura certainement une liste, bien je le soutiendrai, on me dira, je serai au service de cette liste. Mais moi, je suis focalisé aujourd'hui sur le développement en Corse. Il est aujourd'hui, je le dis tout de suite, alors, voilà. Maintenant, tu m'obliges à dire quelque chose, vous ne voulez pas dire.
On va.
Apparemment, déjà, on m'a attaqué dans la campagne... en me disant il veut profiter de la place de président pour servir la Corse. C'était le contraire qui s'était produit. Je commençais à ne plus avoir la disponibilité pour pouvoir m'occuper de la Corse. J'ai été libéré de ce fardeau fédéral, qu'est-ce qui s'est passé? Je te le donne, nous avons créé 4 nouveaux emplois. Nous avons augmenté de 30% nos ressources. 30%, ce n'est pas rien dans le contexte actuel. Et nous avons multiplié, nous avons créé l'école de l'excellence. Nous avons créé le Corse, nous avons organisé de nouvelles compétitions internationales parce que j'avais une plus grande disponibilité, parce que j'étais là pour pouvoir m'occuper directement des choses et être un peu égoïste par rapport à ça. Moi, je suis dans une démarche, je conseille à tout le monde de s'organiser en tant que ligue depuis très longtemps, parce qu'un développement fédéral ne pourra venir qu'à travers le développement de ligue, et non pas du sauver, parce que c'est la réalité du terrain, c'est la réalité des évolutions à la fois institutionnelles, politiques du monde, donc c'est sur le terrain que se passent ces évolutions, et non pas, il y a une conception, je dirais, obsolète de l'association, de ceux qui pensent que c'est au niveau fédéral que va venir la solution. Le niveau fédéral doit traduire cette réalité de terrain, et doit bien sûr techniquement l'encourager, mais ce n'est pas là que ça va se passer, c'est au niveau des ligues. Donc j'invite tout le monde à s'organiser comme nous organisons nous. Donc c'est la priorité des priorités, mais je ne serai pas égoïste parce que j'ai un amour considérable pour les échecs, et j'ai une affection, une amitié pour l'immense majorité de ceux qui construisent des échecs ailleurs. Je sais que c'est beaucoup plus difficile que ce pour nous aujourd'hui, parce qu'on est on est véritablement sur un rythme de croisière, et nous les aiderons. Voilà, moi, je n'ai aucun ennemi. Je vais le dire tout de suite, j'ai employé le mot empathie en ce qui concerne Diego Salada. C'est dire, qu'est-ce que ça va être par rapport aux autres, hein.
Alors,
je veux dire, moi, je ne souhaite pas que des destructions telles qu'elles sont aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un note de salubrité publique à faire, parce que la fédération est en train de dériver totalement, on l'a vu, je ne vais pas revenir sur certains dossiers épineux. Il faut absolument qu'il y ait une alternative de rechange avec des gens qui viennent de tous les horizons et qui jouent le jeu de la transparence, qui modifient tout et qui aient une stratégie.
Alors, puisque tu es venu sur ce terrain politique et tu as parlé de la fédération, je suis un peu obligé de te demander ton avis sur le départ de Laurent Vera, hein, puisque le directeur, donc Laurent Vera, qui est le directeur, je rappelle, directeur général de la fédération, qui est en poste depuis que, je crois, Jean-Claude Moin a été élu la première fois, donc il y a plus de 10 ans, je pense. Donc Laurent Vera a annoncé qu'il partait. Je suppose que tu es au courant. Et qu'est-ce que tu penses de ce départ ?
Moi, je ne vais pas non plus accorder une importance excessive à la chose. Je pense que bon, Laurent Vera, c'est quelqu'un qui a certainement des qualités et qui, je crois que quelque part, il va manquer, hein, dans le dispositif fédéral. Mais ce que le plus important n'est pas au niveau, ça, c'est des trajectoires humaines. Laurent Vera, de toute manière, c'est quelqu'un, je le dis tout de suite, parce que je suis dans la franchise. Pour moi, il a scié la branche sur laquelle il était assise en ayant une attitude, pour moi, ambiguë par rapport à la campagne électorale. Je ne dis pas qu'il fallait être absolument pour notre liste, mais au moins ne pas être contre. Donc, ça, c'est une chose que je tiens à dire. Tu vois, je te fais un scoop, hein. Donc, j'ai pas du tout apprécié son comportement pendant cette campagne. Mais c'est quelqu'un qui a des qualités. Incontestablement, il a des qualités administratives et autres, pas plus, hein, mais en tout cas, celle-là, il les a. Et il faudrait, je crois qu'il va manquer. Je lis ce que disent certains de nos anciens et anciennes de l'équipe de Salazar. Je vois que c'est une stratégie. Là, il y a une stratégie. Et c'est à la fois au niveau du développement des déchets, mais dès le départ, le but, c'était d'écarter presque tous les salariés et de mettre des gens de l'équipe. C'est en cours. Je vois qu'il y a l'une des personnes les plus virulentes durant la campagne qui a sali, en particulièrement moi, à travers tous les réseaux sociaux, qui aujourd'hui va remplacer Laurent Vera. Hein. Je souhaite bonne chance à la fédération et bon courage. Et puis, il y a également, bien sûr, je l'ai écrit d'ailleurs, donc on l'a écrit au niveau de la Ligue Corse, je vois ce qui se passe sur Lyon. Moi, Lyon, il est très sympathique, il est très sympathique, je l'aime bien, il a même marié une Corse et j'ai de bonnes relations avec lui. Mais incontestablement, c'est quelqu'un qui est passionné par les échecs, etc. Mais il y a un côté mystique dans tout ce qu'il fait. Et tous les trucs toutes les annonces péremptoires qu'il fait depuis des années, de centaines d'emplois, de millions d'euros, etc. Les échecs, c'est du vent. C'est du vent parce que ça ne repose pas sur une stratégie sérieuse. Donc, aujourd'hui, dans ces conditions-là, je suis très perplexe. Je vois qu'aussi qu'il y a une solution de rechange qui est en train d'être faite par rapport au fait de le recul qu'ils ont eu par rapport à l'Assemblée Générale, parce qu'à l'Assemblée Générale extraordinaire, c'est par rapport au changement de siège social à Lyon, il y aurait eu 90% des votes contre. Ça, ils le savent très bien, ils ont quand même ce discernement-là. Donc à partir de là, je pense que, connaissant les personnages actuellement qui se débattent, je nous réserve quelque chose du style à le faire quand même d'une certaine façon, en décentralisant le maximum sur Lyon et en restant quelque chose de symbolique et juridique, Saint-Quentin. C'est encore pire. Voilà. Donc je pense qu'il faut que tout le monde reste mobilisé. En tout cas, moi je le dis, je ne veux pas prendre une place plus importante que celle que je souhaite dans cette campagne, mais je l'aiderai, y compris en particulier à travers notre site, parce que notre site, je peux vous assurer que le site corseéchec.com est devenu l'un des sites majeurs aujourd'hui au niveau fédéral. Moi, je connais les chiffres de la fédération, puisque j'étais responsable de la communication, je connais les nôtres, je vais vous dire que ça se rapproche, hein, parce que nous avons une activité, hein, nous avons des newsletters, nous avons de la vidéo, nous communiquons et je communiquerai pour vraiment que les échecs puissent développer au niveau fédéral dans des conditions beaucoup plus sereines, avec plus de transparence et plus d'efficacité.
Ok, super. Donc, merci Léo pour toutes ces informations. Alors, pour conclure cette émission très enrichissante sur la Corse, et on a aussi donc parlé de politique fédérale, puisque on va rappeler, bien sûr, tu as été vice-président de la fédération et candidat à la présidence de la fédération, en plus d'être donc président de la Ligue de Corse. On va rappeler donc Open Corsica du 17 au 19 octobre. Alors le site, c'est simplement le site de la Ligue de Corse pour avoir l'information. C'est corse-échec avec un S, bien sûr, corse-échec avec un S. .com, voilà, et vous avez bien entendu toutes les informations. Il y a plus de 50 000 euros de prix, des stars qui viennent, beaucoup d'enfants qui jouent aussi, des Open, il y a des Open pour tous les niveaux. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler aussi, il y a des partenariats pour venir en Corse, hein, il y a notamment des hôtels partenaires.
Oui, bon, il y a des hôtels qui sont sur le site, hein, qui font des prix spécifiques, hein, qui sont corrects. Et puis, au niveau des transports, bon, bien sûr, il y a Air Corse, il y a Air France, et il y a aussi les bateaux, hein, puisqu'il y a la Corsica Ferry et la SNCF, mais il faut vite en profiter tant qu'elle meurt, la SNCF, qui sont disponibles dans ces périodes-là. Et contrairement à une idée reçue, je pense que c'est un peu cher le déplacement, plus que ce que ça devrait l'être par rapport à ce que souhaite d'ailleurs la Corse, hein. Mais on, ce n'est quand même pas si excessif que ça. Hein. Et voilà. Et puis en plus, on vous garantira 3 jours de bonheur échiqué, hein, avec une grosse ambiance sur place. Et ceux qui sont venus ici reviennent constamment et ils apprécient cet accueil. Et il y a des liens incroyables qui ont été tissés entre les joueurs corses et les joueurs de toutes les régions de France, parce que c'est ça la fraternité aussi échiquéenne, c'est le respect des uns et des autres, et dans leur diversité, je crois qu'on est dans notre diversité, on est capable de faire des choses extraordinaires.
Voilà, et je peux confirmer tout ça, moi, parce que j'y suis donc allé plusieurs fois. Diagonal TV avait filmé d'ailleurs en 97 ou 18, je sais plus, le match Bakro-Polgar à l'époque, une vidéo qu'on peut retrouver sur internet, et j'y suis allé en tant que joueur 2 fois, je peux dire que effectivement c'est magique, quoi. C'est la Corse, c'est magique, en plus c'est un peu hors saison tout en étant quand même en une période où il fait toujours bon, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de touristes, donc on apprécie peut-être un peu mieux la Corse que l'été, je sais pas, ceci dit, parce que l'été ça doit être très très bien aussi, donc c'est magnifique, et ça vaut le coup, donc je vous le dis, en plus de rester jusqu'à la finale, de faire le trajet Bastia-Ajaccio, qui se fait facilement, les transports marchent aussi bien en Corse. Merci beaucoup Léo Battesti.
Merci à toi. Merci et à bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Fréquence Diagonale. Et puis donc je vous laisse, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Je vous laisse avec notre générique fétiche. Au revoir, à bientôt.